Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
For years since I've been gone, I said, I flash your lights, mama. Your horn won't even blow. Something better than my best is done on the machine. I even flash my lights, mama. This horn won't even blow. At a short in this connection, who have his way down below? I got a woman that I'm loving way down in Arkansas. Now you know the cars ain't even buzzing. Little generator won't get that far. More than a bad condition you gotta have. These batteries charged, but I'm crying, please, please, don't do me wrong. Since I've been gone, Mr. Highwayman, please don't block the road. Please don't block the road. Cause she read in a cold 100 and a book 10, I got to go.
Je suis très heureux de vous recevoir dans une nouvelle bulle d'histoire. On écoute en ce moment un morceau de Robert Johnson qui s'appelle Theraban Blues. Theraban Blues, c'est un morceau qui accompagne le début d'un album absolument sublime. Un album de Franz Duchazot, publié par les éditions Serbacane, qui s'appelle « Les derniers jours de Robert Johnson », donc un musicien majeur du blues américain et du blues mondial, de la musique mondiale. Franz, je suis vraiment très heureux de faire ta connaissance à distance. Première question qui commence toutes les bulles d'histoire, c'est est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu en quelques mots ?
Eh bien, je suis un auteur de bande dessinée qui fait de la bande dessinée depuis 30 ans. Et voilà, je suis né à Angoulême et je vis de mon dessin depuis 30 ans. Voilà, avec en faisant des albums depuis environ 20 ans.
Et tu es maintenant, tu as commencé avec des scénaristes, mais maintenant tu scénarises tes propres albums.
Oui, au début, je bossais avec des scénaristes comme Fabien Vellman. Et ensuite, petit à petit, j'ai eu envie de créer mes propres histoires et ne sachant pas trop ce que je voulais raconter au début, je me suis orienté plus vers des univers en fait, comme le blues ou la musique, où c'est des thèmes qui me parlaient, mais que je découvrais au fur et à mesure de mon avancée dans ce milieu-là. Et au début, c'était plus des bandes dessinées avec les scénaristes que genre sur des thèmes historiques ou sur les mille et une nuits, et depuis voilà, je trace mon chemin plutôt vers la musique, entre autres. La peinture m'intéresse aussi beaucoup. J'ai fait un album sur la peinture, un autre sur l'enfance avec Pierre de Cristal. Voilà, j'essaie de varier un peu les plaisirs, même si la musique revient toujours un peu en fil conducteur.
Alors, avant de commencer, donc un livre sur Robert Johnson. C'est une biographie de Robert Johnson qui est tricotée d'une façon un peu particulière. Je vais revenir là-dessus un peu après. Mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Robert Johnson?
Ben Robert Johnson, c'est un noir américain qui vivait dans le sud des États-Unis dans les années 20-30. Il est musicien itinérant avec sa guitare. Il parcourt les bars, les villes, de ville en ville, il trace son chemin en jouant sa musique, un peu comme un clochard qui jouerait dans les rues. Mais puis voilà, quoi, il vivote de sa musique. À l'époque, on faisait très peu d'enregistrements. Quand on avait la chance de pouvoir enregistrer, c'était payé au lance-pierre. Donc, on était plutôt tout le temps dans la galère, quoi. Et même si les disques marchaient, c'était quand même très peu de ventes et puis il n'y avait pas de droit d'auteur. Donc c'était tout le temps la survie, quoi, au quotidien. Et la survie au quotidien, ça amène aussi à être confronté à des choses, comment dire, c'est-à-dire il rencontre plutôt des... Il traîne plutôt dans des endroits un petit peu... un peu glauque, un peu les souterrains de l'âme humaine, quoi. Donc on est plutôt dans les bas-fonds et voilà, c'est la vie des bluesmen, en tout cas de l'époque. Et moi j'aime raconter cette espèce d'état un peu poussiéreux et glauque de l'homme, quoi.
Alors, quelle importance il a dans l'histoire du blues?
Dans l'histoire du blues, en fait, il arrive à la fin du blues rural tel qu'on... En fait, des premiers temps du blues qui démarre fin 19e. Et l'histoire que je raconte est en 1938. Et en fait, on arrive à la fin du blues rural acoustique tel qu'il se pratiquait à l'époque, c'est-à-dire qu'ensuite, c'est plutôt le blues électrique qui est arrivé, quoi. Donc, il clôt un peu cette période-là, quoi. Et voilà.
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais tu racontes beaucoup d'anecdotes sur l'histoire de la musique dans cette biographie. C'est que, par exemple, à un moment donné, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si tu l'as inventé, mais on lui met une guitare électrique entre les mains, et très, très vite, on s'aperçoit que il va pas transporter son ampli tout le temps avec lui parce que c'est lourd. Surtout, il va dans des petits bars ou dans des petits bouges dans lesquels il y a même pas d'électricité.
Voilà. En fait, ça c'est une vraie anecdote. C'est ce qui est dit, quoi. Il a rencontré le guitariste Charlie Christian, qui est un guitariste de jazz à New York, et il lui a fait essayer la première guitare électrique qu'il y avait sur le marché à l'époque, et c'était quelque chose de très très moderne et très nouveau. Et Robert Johnson aurait utilisé cette guitare pour essayer, et il aurait dit qu'il n'arrivait pas à la faire parler. C'est une rupture dans l'histoire du blues, quoi. Parce qu'après, le blues va être transformé vraiment en musique électrique, quoi, avec Muddy Waters et tous ces gens-là de la musique Chicago. C'est le blues qu'on retiendra ensuite. Le blues rural disparaîtra dans les années 60, enfin 50, 60 et tout. Et il y avait très peu de bluesmen qui avaient réussi à enregistrer à l'époque, donc on est resté bloqué plutôt sur le blues électrique, quoi. Donc toute cette période avant 1938 était un peu passée aux oubliettes, quoi.
Ouais, l'autre chose qui est intéressante, c'est là aussi, c'est des choses que j'ignorais complètement, c'est que il y a quelques bars dans lesquels il y a des jukebox. Et donc Robert Johnson a enregistré, je crois, deux ou trois disques, mais vraiment très très peu, quoi. Mais le disque qu'il a fait connaître, en tout cas qui a eu un petit succès, je crois qu'il en a vendu 1000, ça donne une idée du succès d'un disque à l'époque, ça joue dans les jukebox.
Oui, les petits succès, c'était plutôt 10 000 exemplaires, mais ce qu'il a fait plusieurs fois, mais c'était quand même très très confidentiel. Et les jukebox, oui, sont apparus dans ces années-là, les années 20, et ça faisait un peu concurrence aux musiciens itinérants qui se déplaçaient de bar en bar, puisqu'on leur disait, ben non, moi, pourquoi je paierais un musicien alors que ta musique est déjà disponible dans un jukebox, ouais. C'est un peu une concurrence, un peu, c'est étrange. On s'imagine pas que ça existait, mais en fait, si, ça existait, quoi.
Les musiciens se font concurrence à eux-mêmes, c'est terrifiant en fait.
Bah tous, oui, c'était vraiment la survie, quoi. Et puis, en plus, les endroits où ils traînaient, c'était vraiment des bouges, quoi. C'était l'alcool, c'était les femmes, tout était. On était vraiment dans les endroits les plus glauques qui soient, quoi. C'était les bouges, quoi.
Alors, dans les endroits glauques, là, et je trouve que tu le dessines absolument merveilleusement bien, Robert Johnson vit dans le sud des États-Unis, donc l'endroit où le racisme est le plus prégnant, le plus puissant. Il risque sa vie quand même très régulièrement. C'est un musicien itinérant et les itinérants sont souvent très mal vus, très mal jugés. Tu as fait plusieurs albums sur ce thème, le sud des États-Unis. Il y a Meteor Slim, il y a Lomax. Il y a plusieurs. C'est un thème qui te tient à cœur.
Oui, parce que en fait, je pense que c'est aussi lié à l'imagerie, au graphisme américain qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y a un génie américain dans la partie graphique de ces années-là, des années 20, 30, qui s'arrête pour moi dans les années 50, quoi. C'est-à-dire. En fait, je m'intéresse plus à cette période-là pour des raisons visuelles que pour des raisons liées à la musique, je pense. Ça paraît très bizarre de le dire, mais toutes les parties, par exemple une publicité dans les années 20 ou une boîte de médicaments dans les années 20-30 est particulièrement belle et bien dessinée et d'une richesse incroyable graphique, et ça transparaît aussi dans le quotidien, dans cette espèce d'univers qu'on se fait des États-Unis à cette époque, dans le Sud. Tout est lié, en fait. Il y a comme ça un fil invisible qui relie graphiquement toute cette période et qui me parle particulièrement pour le dessin, quoi, en fait. Et donc, du coup, je pense que j'aime raconter cette période-là pour ces raisons-là plus que pour la musique. Après, la musique vient en plus, quoi, mais c'est plus une bande sonore qui viendrait en parallèle de ce que j'ai envie de faire graphiquement, quoi.
Dans ton dessin, parce que ce qui m'impressionne toujours et ce qui me séduit énormément, c'est que c'est quand même des ambiances ou des lieux très très noirs. C'est des choses très difficiles que tu racontes, que vit Robert Johnson avec son acolyte. Mais en même temps, c'est un dessin, je le trouve très lumineux. Il y a beaucoup de lumière. On est presque ébloui, même si tout est en noir et blanc.
Alors ça c'est bien, oui, effectivement, j'aime beaucoup le noir et blanc, mais le noir et blanc, ça ne signifie pas mettre beaucoup de noir partout, des grands aplats noirs, c'est justement trouver la lumière, quoi. Et trouver surtout l'ambiance adéquate, c'est-à-dire une ambiance un peu lourde. Et ça, j'aime beaucoup transposer ça dans le dessin, ouais. Mais en fait, ça vient. Je ne cherche pas vraiment, ça vient naturellement. Je pense que c'est ma façon d'imaginer ce monde-là, en fait, tel que j'aimerais tel que j'aimerais le vivre si je devais me déplacer là-bas, quoi. Ces ambiances lumineuses, ouais, ça correspond un peu à ce que je à ce que à mon fantasme de ce monde-là, ouais. Et donc oui, et puis toute l'iconographie blues liée à ça, c'est-à-dire les voitures, les vieilles bagnoles, les vieilles guitares, les costards que portaient les mecs à l'époque. Robert, il se balade plutôt en costume, cravate, quoi, mais les bluesmen de cette époque-là sont plutôt des clochards, quoi. C'est-à-dire c'est plutôt bretelles et pantalons larges. Robert Johnson, lui, il essaie plutôt de s'élever un peu socialement, quoi. Il veut pas en rester là. Il veut pas. C'est pour ça qu'il va dans les villes, quoi. Et c'est pour cette raison-là qu'il veut s'échapper un peu de ce milieu-là, ce monde-là rural, pour justement s'élever un peu socialement, quoi. Et donc il recherche le fait d'aller de pouvoir enregistrer, de pouvoir être reconnu par le monde des blancs, c'est ce qui est dit dans l'album, c'est-à-dire le monde des blancs domine un peu le monde et lui a bien envie de ce monde-là quand même, malgré tout, quoi.
Mais ce qui est après, bon, c'est une sorte, c'est un gag un peu sinistre, mais c'est qu'il est quand même recherché par des blancs qui veulent absolument le retrouver pour l'inviter à un grand concert, à un concert très important qui va se tenir au Carnegie Hall à New York, qui est le premier concert de la musique noire américaine. Et donc, ce monde des blancs qu'il recherche, en fait, le poursuit et il n'arrive pas à se retrouver, quoi.
Eh bien, en fait, c'est ça, ouais. C'est deux mondes parallèles qui ne se rencontrent jamais. Et lui, il est attendu à ce concert du Carnegie Hall. On le recherche. Deux blancs sont missionnés de New York pour aller chercher dans les États-Unis, dans le sud des États-Unis. Et alors que lui-même part à New York pour justement chercher cette reconnaissance. Et ce sont deux mondes qui se rencontrent pas et qui ne font que se croiser. Et du coup, voilà, c'est une histoire qui s'achève comme ça, par une non-rencontre, quoi. Et effectivement, ce grand festival qui a eu lieu, fin décembre 38, pour faire connaître la musique noire au monde des blancs, dans les grandes villes comme New York. Et voilà, ben, lui, Robert, ne connaîtra jamais ça. Et d'ailleurs, il a été remplacé par un autre noir américain qui s'appelle Big Bill Brunzi, qui est un bluesman aussi, un peu plus connu que Robert à l'époque, et qui finalement, lui, aura eu une très belle carrière ensuite, quoi.
Juste pour finir, on finira jamais sur le dessin, mais il y a une chose très importante. Je connais bien l'histoire de la photographie américaine, notamment des années 30, 40, 50. Et tu as beaucoup utilisé des images de ce qui s'appelait à l'époque la Farm Security Administration, qui était une grande campagne de photographie lancée par l'administration Roosevelt suite à la grande crise économique, qui devait documenter la vie des Américains, surtout des Américains ruraux, même s'il y a des villes aussi. Tu as beaucoup utilisé ça et je trouve que c'est vraiment bien... C'est bien fait, on est à la fois dans la photo et dans le dessin. Il y a un truc très subtil de dessinateur qui, là aussi, rend le côté très réaliste. On est vraiment dans l'histoire de Robert Johnson et en même temps, tu l'as travaillé de façon à ce que ça... Il y a une sorte de, en permanence, de rêve américain qui s'installe peu à peu dans toute l'histoire.
Oui, ben, j'ai fait ça effectivement. Dans Meteor Slim, je l'avais moins utilisé et du coup, peut-être qu'on sentait un peu moins... cette atmosphère-là, mais là, pour Robert Johnson, j'ai pas mal utilisé ces documents, et parce que tout de suite, on est immergé dans l'ambiance, quoi. On sait où on est, on est itinérant avec lui, quoi. On est déjà dans l'image, quoi. Donc après, il faut faire vivre le personnage et tous les personnages autour. Et j'ai envie de, c'est un peu comme un film, quand on a envie de faire un film de cette époque-là. Comme on a envie de s'immerger soi-même dans ce monde-là, quoi. On a envie de le vivre et j'ai envie que le lecteur il soit complètement immergé aussi là-dedans. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de s'imprégner complètement de ces images-là, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. En fait, je pense que le projet Robert Johnson est plus né de cette envie-là que de raconter la musique elle-même. Voilà, la musique vient juste en plus, quoi, en fait. Mais moi, j'ai ce fantasme-là de ne pas avoir... Enfin, je n'ai pas vécu ce monde-là, cette période-là, qui était très dure, quoi. Mais je veux m'y balader avec l'aide de la bande dessinée, quoi. C'est important.
Oui, puis comme tu disais, il y a un style graphique de ces années-là, d'architecture, de voiture, de style urbain, et ça permet aussi, parce que tes personnages sont très, j'allais dire, très mous, voilà, ils ondulent beaucoup dans les pages, alors que le décor et tout ce qui n'est pas les personnages est très, très carré, très géométrique, comme l'étaient les choses dans ces années-là, quoi.
Ah oui, bah ça, je sais pas, mais très mou, enfin, il se déplace, quoi. Il y a un côté un peu. Il faut trouver aussi un côté graphique au personnage, c'est-à-dire qu'il court pas dans tous les sens. Il se déplace avec leur guitare et tout, mais il faut les faire jouer comme des acteurs, quoi. Il faut pas qu'ils soient juste collés sur un décor, quoi. Il faut les faire jouer et que tout ça avance ensemble, quoi. Avec la structure des décors et il faut qu'on puisse y croire, quoi.
Alors, il faut qu'on parle quand même de l'histoire, pas seulement de tout ce qu'il y a autour. Donc, tu racontes les deux derniers mois de Robert Johnson, donc juillet-août 1938.
Ouais.
Donc, c'est vraiment la fin de sa vie. En même temps, il y a régulièrement des flashbacks qui sont introduits par des petites images qui permettent de sortir de ces deux derniers mois. Pourquoi tu as choisi de le raconter comme ça et pas de partir de A à Z?
De raconter toute sa vie, tu veux dire, ou
Non, de raconter juste les deux derniers mois, partant de ce moment-là très important, qui est vraiment la fin de sa vie, où il va déambuler dans le sud des États-Unis avec un copain, avec un comparse. Ouais. Mmh. Pourquoi tu as choisi ces deux derniers mois et pas sa vie de façon très linéaire?
Bah, en fait, je voulais faire un road trip qui raconte qu'il cherche à ouvrir un peu à s'ouvrir à une carrière plus grande, quoi. Donc, c'est juste on part d'un point ou du sud, on remonte vers le nord à New York, et je raconte ces deux derniers mois, oui, effectivement, comme un road trip, quoi. Je voulais montrer à quoi ressemblait à la vie d'un musicien à l'époque, sa façon de vivre et de gagner sa vie en itinérant, et en partant d'un point A à un point B qui est New York, et en même temps en faisant des courts flashbacks comme ça sur sa vie pour savoir qui il est, d'où il vient, et c'est une façon un peu c'est dans le film Ray Charles, et c'est un peu ça, quoi. On le suit un peu comme ça et après il y a quelques flashbacks comme ça qui viennent ponctuer le film et qui racontent un peu son enfance, quoi. J'avais un peu cette idée là en tête, quoi. Et pour moi ça permet à la fois de raconter le quotidien de ces hommes là et en plus de raconter un peu ce qu'ils étaient avant dans leur enfance en ponctuant comme ça par moments de petits flashbacks qui viennent souligner un peu certains comportements qu'ils peuvent avoir dans leur vie telle qu'elle se déroule sous nos yeux, quoi.
L'autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu ne mets pas en scène la fameuse rencontre de Robert Johnson et du diable au croisement des routes. Tu as vraiment mis l'accent sur l'homme et sur le personnage et pas sur la légende. On est toujours dans la vie quotidienne la plus pratique, la plus pragmatique. Il y a pas de légende.
Pour moi, il n'y a pas de légende, quoi. Ça a été tellement rebattu l'histoire du diable avec Robert Johnson que j'avais pas du tout envie de faire ça. Je voulais juste raconter la vie d'un homme qui a eu des comme n'importe qui a eu des rencontres et des croisements dans sa vie qui l'ont fait changer. Mais pour le coup, moi, les croisements, c'est plutôt des rencontres, par exemple avec Ike Zimmerman, qui rencontre dans l'album, qui est un musicien pas connu, mais qui l'a amené vers autre chose, qui lui a appris la guitare, qui lui a appris à jouer, et qui grâce à lui a su être un musicien accompli. Pour moi, c'était plus le côté justement humain que j'avais envie de raconter, plus que de la mythologie autour du personnage, quoi. Parce que on a beaucoup raconté la mythologie de Robert Johnson, mais voilà, finalement, Le fait qu'il parte un an comme ça et on sache pas où il est et on pense qu'il est allé, il a rencontré le diable qui lui a accordé sa guitare pour être un meilleur musicien. Ben moi j'avais pas envie de faire ça. Je voulais montrer la vraie rencontre qu'il a eue dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire avec ce musicien rural qui le jour construisait des routes et le soir faisait de la guitare et il lui a appris les rudiments de cet instrument et le soir il jouait dans les cimetières. Voilà, et puis au bout d'un an, Robert a appris tellement qu'il a pu se confronter justement aux musiciens qui se moquaient de lui avant et qui le rejetaient, quoi. Je pense qu'il a pris la mouche et qu'il est revenu beaucoup plus fort, quoi. C'était vraiment ce que j'avais envie de raconter, quoi. C'était être au plus près de... Après, c'est toujours subjectif, mais je voulais être au plus près de ce qu'est, de ce qu'était sa vie réelle, en fait.
Non, mais ça marche très, très bien, parce que moi, j'ai commencé à lire, et très, très vite, on s'attend à avoir ce croisement avec le diable. Mais en même temps, là aussi, très vite, on se prend d'amitié pour Robert Johnson, et on s'intéresse beaucoup plus à la vie du personnage, à sa vie quotidienne, au fait que être noir, c'est risquer sa vie, on peut être lynché, on peut être attaqué. On est souvent arnaqué, on est mal payé, les blancs. Il y a une scène assez touchante où il prend un train comme ça, à la volée. Il rencontre une femme blanche avec un bébé et il veut faire un bout de chemin avec elle. Et elle lui dit non, surtout faites pas ça, c'est trop dangereux. Et c'est vraiment ça qui prend le dessus et c'est vraiment ça qui embarque le lecteur plus que la légende, j'ai trouvé.
Ouais, ben moi c'est ça. Ouais, je voulais vraiment raconter quelque chose qu'il aurait pu vivre tel de cette façon-là. C'est-à-dire que jamais il a rencontré le diable, il a rencontré d'autres gens, quoi. Et puis d'ailleurs, il en parle jamais dans ses chansons du diable, Robert Johnson. Je sais pas d'où vient cette légende. Il y a juste une chanson qui s'appelle Me and the Devil Blues, mais il parle pas du diable proprement parlé dans cette chanson. C'est une construction qui s'est fait petit à petit, qui s'est cristallisée sur lui, mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Ça paraît absurde. Donc tout ça ne m'intéressait plus, quoi. Surtout que ça, on l'avait raconté mille fois, quoi. Les rencontres, il les faisait surtout, c'était surtout peut-être ce qui a amené à ce qu'on associe le diable avec Robert Johnson, c'est plutôt son comportement dans la vie. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de... Comme disait Johnny Shine, il provoquait des bagarres, mais il y participait, quoi. Il fallait toujours le sortir de là, quoi. Il n'avait pas la carrure pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'il était diable dans son comportement et avec les femmes. La chose qui l'intéressait, c'était d'aller draguer des femmes mariées, quoi. Et puis de tout faire pour se mettre dans des situations pas possibles. Par exemple, Muddy Waters l'a croisé au tout début de sa carrière et il l'a observé de loin comme ça et lui il dit je préférais m'éloigner de ce type-là parce que je sentais que c'était quelqu'un de dangereux, quoi. Mais parce que simplement c'était le plus doux des hommes quand il avait pas bu, mais une fois qu'il avait bu, il pouvait faire n'importe quoi, il était totalement imprévisible, en fait. Et ces démons ressortaient, à mon avis, à ce moment-là, quoi, quand l'alcool était quand il était imbibé d'alcool, quoi. Mais bon, ils étaient tous comme ça aussi à l'époque, quoi. C'était
oui, il y en a beaucoup, mais la plupart faisaient pas de vieux os, quoi.
Ouais.
On a évoqué plein de choses, le temps passe, mais je voulais évoquer autre chose avec toi, c'est l'écriture notamment des dialogues. J'ai trouvé très, très juste, vraiment très très fin, et surtout ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a beaucoup de planches qui sont presque muettes. Ça, à chaque fois, c'est un vrai plaisir d'avoir des planches muettes, parce qu'on peut vraiment se concentrer sur le dessin et avoir le plaisir du découpage et du travail de scénariste et de dessinateur. Et en même temps, aussi, tu as utilisé les chansons de Robert Johnson avec beaucoup de parcimonie. Ça aussi, parce que souvent, on a l'impression, dans quelques BD, où on met plein de paroles, plein de choses qu'ont écrit les musiciens, et ça envahit tout. Là, tu les as utilisées avec vraiment parcimonie, et à chaque fois, c'est comme un commentaire de sa vie.
Oui, eh ben je voulais justement qu'on et puis elles sont traduites en français. C'est-à-dire que je voulais que le lecteur comprenne les paroles des chansons, parce que généralement elles restent en anglais, donc on ne fait pas l'effort de les traduire forcément mentalement. C'est juste un truc comme ça là pour faire bien. Et moi je voulais qu'on puisse les comprendre les paroles. Et effectivement, j'en utilise assez peu parce que finalement c'est assez barbant à lire des paroles de chansons. Et puis les pages muettes, moi j'aime beaucoup le manga. Enfin, j'aime beaucoup le manga et je me rends compte que dans le manga, contrairement à la bande dessinée franco-belge, on fait beaucoup de muets. Il y a beaucoup de planches muettes, ça peut durer des pages et des pages. Et moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, ça, de raconter. Par exemple, sur un changement de séquence, on peut faire plusieurs pages muettes et voilà, on suit des personnages comme ça et après, quand il faut des dialogues, on les rajoute, quoi. Mais ça me plaît beaucoup de cette narration muette, quoi. J'ai un certain goût pour ça aussi, quoi. Et pour ce qui est des dialogues, oui, parfois c'est les dialogues sont mélangés avec des dialogues en anglais parce que ça claque mieux à l'oreille aussi pour finir une phrase. Et ça, c'est ouais, j'ai mélangé le français et l'anglais pour ces raisons-là, quoi. C'était plus musical. C'était plus musical de finir un dialogue en anglais et de le commencer en français, quoi. Il y avait un truc qui claquait bien, quoi.
Ben, Franz, je te remercie de cette demi-heure passée avec moi. J'aurais bien passé un peu plus de temps à parler de Robert Johnson, mais les émissions ont une fin. C'est toujours comme ça. Je rappelle donc l'album, c'est Les derniers jours de Robert Johnson. C'est publié par les éditions Sarbacane. C'est au prix de 29,90 €, ça fait 230 pages. Et il faut aussi souligner à chaque fois le travail d'édition de Sarbacane, qui à chaque fois produit des livres absolument somptueux. Il y a beaucoup, beaucoup d'attention qui est portée à la fabrication. Et à chaque fois, on est enchanté de recevoir ces livres qui sont magnifiques.
Ah bah oui, Sarbacane a travaillé enfin de façon extraordinaire quoi. Le rendu du noir et blanc est parfait quoi. C'était exactement ce que je voulais, même mieux quoi. C'est même mieux que ce que j'avais espéré quoi. Donc ouais, ça c'est pour niveau éditorial là, c'est au top quoi.
Et la couverture, je le trouve, est absolument magnifique.
Oui.
On a envie de l'encadrer quasiment, quoi.
Eh ben c'est une couverture qui fait en hommage aux couvertures de disques Blue Note, quoi.
Ben, je te remercie beaucoup. Je te dis à bientôt. Et surtout, on va se quitter sur une chanson de Robert Johnson qui est Sweet Home Chicago, qu'on connaît surtout par la reprise des Blues Brothers, mais qui est à l'origine une chanson de Robert Johnson. Et je te dis donc à bientôt.
Eh ben merci. Merci, merci. Chicago.
California, from 30 miles far away. Somebody will tell me that you need my help someday, son. Hey, hey, baby, don't you want to go? Hey, to the land of California, to my sweet home, Chicago.
Bulle d'histoire.
Hein?
Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.
Mmh.